Philosophie de l'activité artistique, 7e conférence du Père Marie-Dominique Philippe, le 23 décembre 1993.
C'est déjà fait, ça. Je ne savais pas. On me dit ceci. Pourriez-vous faire la différence entre l'inspiration et l'intuition? On vous l'a dit? Non? Non. Parce que je crois qu'on a donné des explications, ça va. En quel sens peut-on dire que l'inspiration présuppose une intuition? Qu'est-ce qui caractérise une intuition? Est-ce avant tout un pressentiment? Si l'inspiration est une source, comment l'intuition peut-elle être? Peut-elle la précéder? Oui, oui, je vois très bien. Bon, alors, en quelques mots. L'intuition est beaucoup plus générale que l'inspiration. Il faut avoir des intuitions en mathématiques. Henri Poincaré décrit admirablement ce que c'est que l'intuition en mathématiques. On peut avoir des intuitions affectives. On peut avoir des intuitions esthétiques. On peut avoir des intuitions critiques. Dans beaucoup de domaines, on peut avoir l'intuition. Qu'est-ce que c'est que l'intuition? Alors, je mettrai le parallèle entre expérience et intuition. L'expérience, c'est le contact direct de l'intelligence avec une réalité existante. Expérience interne ou expérience externe. Je fais l'expérience d'un accident. D'expérience externe. Je fais l'expérience interne de ma tristesse. Je suis triste. On dit pourquoi? Je ne sais pas très bien pourquoi. Je suis triste. C'est interne. C'est l'expérience de la joie. Alors, la différence entre une philosophie réaliste et une philosophie néo-platonicienne qui n'est plus réaliste. C'est que pour la philosophie réaliste, il faut toujours revenir à l'expérience de l'intelligence qui se sert des sens externes. Tandis que dans le néo-platonisme, on peut très bien commencer par l'expérience interne. Saint Augustin, par exemple. Et l'expérience interne n'a pas besoin d'être confortée par l'expérience interne. L'expérience interne n'a pas besoin d'être confortée par l'expérience externe. Alors, donc, l'intuition, au point de vue philosophique, porte sur une relation. C'est une nouvelle relation. Que cela existe ou que cela n'existe pas, peu importe. J'ai l'intuition, tiens, ça doit être comme ça. C'est très beau. Cette relation, je n'avais jamais vu ça. Alors ça porte sur une forme, puisque la relation est une forme. Et non pas nécessairement quelque chose qui existe. On peut avoir des intuitions sur des réalités à venir qui n'existeront jamais. L'inspiration est beaucoup plus une source qui pousse vers. Il y a un dynamisme. Quand on appelle à un moment donné les idées force, c'est l'inspiration qui vous donne ça. L'intuition n'est pas une idée force. Donc, l'intuition regarde plus le contenu d'une connaissance. Et l'inspiration regarde plus le dynamisme, le souffle, l'élan. Vous voyez, ce point de vue-là, c'est très différent. Il peut y avoir une inspiration, et je dirais, toute inspiration porte en elle une intuition. mais toute intuition ne porte pas en elle une inspiration. J'espère que vous voyez ça. Alors l'inspiration présuppose une intuition, pas nécessairement. J'ai peut-être dit ça un peu rapidement que c'est pas nécessairement, c'est deux choses différentes. L'inspiration est première, c'est une source. Mais elle a un certain contenu. Et ce contenu est ordinairement de l'ordre de l'intuition. Pas de l'ordre de l'expérience. L'expérience est antérieure à l'inspiration. L'expérience est antérieure à l'intuition. Il faut beaucoup d'expérience pour avoir une intuition. Il faut beaucoup d'expérience pour nous disposer à l'inspiration. Normalement, c'est comme ça. Mais pas un petit enfant qui n'a pas eu d'expérience, il n'a pas d'inspiration. Rappelez-vous la première inspiration que vous avez eue. Hein? Ça présupposait un certain nombre d'expériences dans ce domaine. Normalement, on a des expériences qui nous nourrissent, puis tout d'un coup, une inspiration, puis tout d'un coup, une intuition. Alors, dernière chose, qu'est-ce qui caractérise une intuition ? Je vous l'ai dit, ça porte sur une relation, donc sur une forme. Est-ce avant tout un pressentiment ? Non, non. L'intuition n'est pas nécessairement un pressentiment. Ça peut être un pressentiment. Il peut y avoir des intuitions qui sont des pressentiments. Mais l'intuition mathématique n'est pas un pressentiment. Et c'est peut-être dans les domaines mathématiques que l'intuition est la plus parfaite. Je crois. Les grands mathématiciens sont toujours des hommes très intuitifs. Toujours. Comme les grands artistes. Et avec l'art, il peut y avoir l'inspiration. Je n'oserais pas dire qu'en mathématiques, il y a l'inspiration. C'est des intuitions. Très formelles. Creusons encore un tout petit peu. Le fruit de l'inspiration. Nous avons vu la source. Maintenant, voyons le fruit. Quel est le fruit d'une inspiration ? C'est ce que on a appelé l'idée. Un projet. Ça, c'est en latin, l'idée. Eidos, en grec, idée, en français. Toute inspiration me donne une idée. Alors, comprenons bien que l'idée implique nécessairement un projet. Je porte en moi cette idée. Un projet qui sera à l'origine même de tout mon travail. Très curieux, des gens d'inspiration. Je me souviens que c'était une petite fille. Elle avait 5 ans, je crois. 5-6 ans. Père japonais, grand artiste, peintre, mère française, très artiste, au point de vue musical, au point de vue piano. Et la petite tenait des deux. Et elle avait une espèce d'intuition très curieuse. Elle faisait des vitraux. Je les ai vus. Très beaux. Alors je donne cet exemple. Elle se promenait, son père l'aimait follement. Et sa mère, de même. Donc elle était très très gâtée. Et que cette fille, pour que les sensations soient pures, ne touchait que de la vaisselle de très grande qualité. Rien d'artificiel, tout de très grande qualité. Une éducation japonaise très extraordinaire, très étonnante. Et alors, ayant fait une promenade avec son père durant la journée dans une forêt, il y a un endroit où il y a eu un feu. La forêt a pris feu. Il y avait un feu très bon dans la forêt. Pour des orties, c'était très bon. Et la petite était très bonne. Bien la nuit suivante, elle s'est réveillée pendant la nuit avec côté impératif de réaliser un vitrail de feu. J'ai vu, c'est très très beau. À 3h du matin, inspiré, vous pouvez pas autrement. Elle a tiré son père de son lit. Elle est venue assister à ce vitrail qu'elle a composé, comme ça, qui était le feu. Mais pas le feu qu'elle avait vu, mais le feu préparé par cette expérience, cette intuition du feu, le vitrail. Et là, on voit bien, c'est même très curieux, le fondement d'inspiration, l'expérience très vive, l'inspiration elle-même. Et la réalisation, elle a eu ce projet, cette idée. C'était plus fort que tout, il fallait qu'elle le fasse. C'est comme ça les artistes. Il faut, c'est plus fort que tout, c'est par nécessité. Et rien n'aurait arrêté, c'est ce que m'a dit son père. Rien n'aurait arrêté. Il s'en avait dit, mais non, c'est la nuit, il faut que tu dormes. Pas du tout. Pas de nuit pour un artiste. Il doit réaliser ça. Elle était inspirée. Alors vous voyez, le fruit de l'inspiration, c'est l'idéa. Alors, au point de vue philosophique, il faut comprendre qu'il y a le concept, l'idéa et le secret. Je crois qu'il faut toujours voir en parallèle les trois. Le concept, on l'étudie de façon générale en philosophie, en critique. Le concept, c'est quelque chose que nous formons dedans de nous-mêmes. C'est vraiment un concept d'animal. Quand vous dites animal, vous pensez à quelque chose, normalement. Quand vous dites chat, vous pensez à quelque chose. Une image, une représentation. Puis, il y a la signification du chat. Et le chat est un animal particulier, spécial, qui n'est pas le chien. Donc, quand vous avez le concept du chat, il y a la signification est toujours liée à un concept. Vous distinguez la représentation. Le point de vue du concept qui regarde uniquement le point de vue de la signification. Et quand ce concept s'exprime dans une énonciation, vous avez à ce moment-là un projet. C'est dans le jugement. Ce n'est plus la prévention, c'est le jugement. Le secret, c'est le lien de l'intelligence et l'amour. Et quand vous aimez beaucoup quelqu'un, l'amour que vous avez pour cette personne est un secret. C'est un secret que vous portez en vous. Il y a ce secret. Et l'intelligence liée à l'imagination, c'est-à-dire à tous les possibles. Vous avez l'idée. L'idée, le projet. Parce que l'idée, c'est pas uniquement l'appréhension, c'est comme le secret. Il y a un jugement. C'est le fruit de tout jugement. L'idée, c'est une idée projet, une relation nouvelle qu'il faut créer entre des couleurs, entre des volumes, ça dépend, entre des sons, dans un rythme. Et, alors très complexe, hein. L'idée, c'est pas simplement quelque chose de simple, c'est quelque chose de, ça peut se s'étendre, se développer. Vous avez une idée d'un bâtiment à construire, d'une salle de concert. Vous avez l'idée d'une église. Donc, vous voyez, les trois fruits internes de mon intelligence. L'intelligence pour elle-même et par elle-même, quand elle pense, elle forme au-dedans d'elle-même un concept qui a une signification universelle. Et ce concept est ou générique ou différent spécifique, ça c'est la logique. Quand l'intelligence est liée à l'amour, vous portez en vous un secret. La première fois qu'on vous a confié un secret, rappelez-vous bien, vous avez été lié à l'ami qui vous a confié ce secret. Parce qu'il n'y a que des amis qui confient des secrets. On confie à un ami un secret. Quelque chose qu'on ne dit pas aux autres et qu'on ne dit qu'à l'ami. Et le secret, c'est comme un nœud entre l'intelligence et l'amour. Toujours les deux. Et l'idéa, c'est l'intelligence liée au possible imaginatif, les réalisations possibles. Vous voyez, c'est intéressant parce que ça vous permet de voir trois grandes orientations de l'intelligence. Une intelligence spéculative, une intelligence pratique, affective, ou réalisatrice. Une fois que vous comprenez que le fruit de l'inspiration, c'est l'idéa, vous verrez que l'idéa, j'ai l'idée de construire un sabot, j'ai l'idée de construire ce vitrail, j'ai l'idée de construire une statue. Une fois que vous avez une idée, vous pouvez réfléchir sur la manière dont vous allez la réaliser. L'idée demande de se réaliser. Il y a à ce moment-là, en fonction de l'idée que vous avez, du projet que vous avez, vous choisissez la matière. Je vous le dis ce matin. Vous voyez mieux maintenant, j'espère. En fonction d'un projet, j'ai le projet de construire cette église. Je vais la construire en bois. Parce qu'il y a du bois. Ça ne coûte pas trop cher. Je vais la construire en briques. Je vais la construire en pierre. Je vais la construire en béton. Tout dépend. Oui, il y a le choix de la matière. Et le choix de la matière est une chose très très importante chez un artiste, un artisan. La matière, ça prend une place énorme. Un sculpteur, parce que les sculpteurs sont ceux qui ont le plus de sens de la matière. Un vrai sculpteur qui veut réaliser quelque chose qui est conforme à son idée, ira choisir la pierre dans la carrière, pour être sûr. Il ira choisir le bois aussi, là où le bois est encore un peu abrupt, c'est-à-dire tout proche de l'arbre, et ainsi de suite. Vous voyez, la matière, elle a des niveaux différents. La matière, ça peut être une matière déjà très élaborée. Ça a déjà servi à la construction d'une statue. C'est une matière très élaborée. Vous pouvez gommer la statue. Le tout, c'est de faire une statue moins grande. Et puis, d'en faire une autre statue. Plus grande et plus difficile. Sauf si vous arrivez à combiner les choses de façon très astucieuse, à faire qu'il y a des pièces différentes qui se raccrochent. Autrement, normalement, la matière, c'est ce qui est capable d'être transformé par l'homme. Alors, toutes les formes de matière. Mais la matière est commandée par l'idéa. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas la matière qui commande l'idéa. Ah, vous voyez, quand je dis la matière est commandée par l'idéa et que ce n'est pas la matière qui commande l'idéa, entre la matière et l'idéa, il y a une coopération. Regardez le sculpteur. Si vous êtes sculpteur vous-même, vous comprenez ça tout de suite. Il faut dans sa vie avoir une fois sculpté. Pour comprendre qu'on n'est pas fait pour ça, ou pour comprendre qu'on est fait pour ça. C'est du reste merveilleux. Il faut apprendre aux jeunes de sculpter. Et quelquefois aux moins jeunes aussi. C'est grand de sculpter. Réaliser dans le bois quelque chose qu'on porte dans la tête. Profondément. C'est quelque chose de très beau. Ou dans la pierre. Un breton. Le granit. Un italien, le marbre. Et ainsi de suite. Je vois cet exemple que j'ai vu de propres yeux et de mes propres mains. C'était quand j'étais chez les Dominicains au Saulchoir. On voulait qu'un sculpteur qu'on connaissait, qui était un breton, sculpte une Vierge Marie avec l'enfant. Et ce sculpteur était jusque-là uniquement un animalier. Il travaillait, il faisait des petites sculptures de petits d'animaux. Il acceptait de faire une vierge. En disant, c'est pas la même chose. C'était un homme très religieux. Et il avait dit, je viendrai sculpter cela chez vous, au couvent. Être dans le milieu. Alors vous comprenez que c'était extrêmement intéressant d'aller bavarder avec lui constamment, voir comment il travaillait. Ça m'intéressait beaucoup. Parce que dans le temps, j'aimais beaucoup de sculpter, alors ça m'intéressait de voir lui, hein, sculpteur qui avait voué sa vie à ça. Un beau jour, je le vois triste. Ça va plus. Elle dit non, venez. Il dit, voyez. Il travaillait déjà depuis 6 mois. À même son grand granit venant de Bretagne. Il était à la tête. Et puis il y a eu un éclat. Sur le front. Un gros éclat. 6 mois de travail, fichu. Et puis là, il m'a dit, c'est là où il m'a dit, pourtant j'ai dû choisir ce granit à la carrière pour être sûr qu'il n'y avait pas de faille, que tout irait bien. Et puis malgré ça, alors je lui ai dit, il faut prier, on va prier avec toi. Puis le lendemain, je le vois tout joyeux, inspiration, l'idée avait changé, oui. La matière avait modifié son idéal. Il faut beaucoup de souplesse. C'est très beau, ça. Chez les grands artistes, c'est qu'on voit. L'idée est très déterminée. C'est pour ça que les voies de l'art sont des voies déterminées. Et un grand artiste est toujours très déterminé. C'est pour ça qu'il semble toujours inflexible et quelquefois même orgueilleux. Parce que l'idée qu'il a, c'est la seule. Toutes les autres, c'est fichu. J'ai bien connu Rowe, et Rowe, qui était, alors lui, un breton, très impératif. C'était pas du tout un sculpteur, mais un peintre breton. Terriblement déterminé. Et alors, j'entendais la manière dont il pouvait parler de l'art des confrères. Moïse, il n'y en a aucun. Alors, il y en avait d'autres dans la tête, hein, qu'il n'y avait pas d'autres Moïse. Il ne peut y en avoir qu'un. Les autres, la blague. Oui, alors on dit parce qu'il est orgueilleux, pas du tout. C'est les voies déterminées de l'art par l'idéa. L'idéa vous conduit, vous dirige de façon impérative. Ça, c'est le problème de l'artiste. Oui, c'est tout à fait la voie différente du prudent. Saint Thomas dit, la prudence a des voies indéterminées, l'art a des voies déterminées. C'est pour ça que je vous disais que par le travail et l'art, on domine la matière. Et il y a toujours ce dominium, cette domination sur la matière qui est propre à l'artiste, qui est propre au travail. Le travail nous fait dominer la matière. Alors, de temps en temps, la matière oblige l'artiste de changer. Et en effet, ce beau sculpteur m'a dit, oui, voyez, jeune animalier, c'est difficile pour moi de faire la statue de la Vierge et la tête de la Vierge. Voyez, elle était trop rigide. J'ai compris qu'il fallait l'incliner un tout petit peu. Alors je rattrape. Il avait changé complètement. C'est très joli. Alors là, on voit comment la matière détermine l'idéa. Parce que l'idéa, ça se fait progressivement. C'est impératif au point de départ. C'est une urgence très grande. Mais de fait, quand la matière est là, et qui se dresse impérativement, vous êtes obligé de prendre un autre sentier. Prendre une autre voie. Ou bien vous fichez tout en l'air. Il y avait deux solutions. Ou de prendre cette voie-là, en respectant tout le travail fait. Ou bien lancer ça et puis recommencer. 6 mois de travail. On comprend qu'avant de jeter 6 mois de travail au cimetière, on essaie de voir s'il n'y a pas possibilité de trouver, c'est ce qu'il a cherché. Des voies déterminées de l'art, mais quelquefois la matière est plus impérative encore que l'idéa. C'est pour ça que c'est une coopération très curieuse, la coopération de l'artiste menée par son idée et le point de vue de la matière. C'est une coopération, c'est une œuvre à deux. L'œuvre comme telle, on va aboutir à l'œuvre, pas tout de suite. Et l'idéa commande le choix de la matière, commande le choix des outils. Et l'idéa, ou, c'est même très curieux, chez certains artistes, ils demandent de réaliser l'idéa d'abord, un peu en miniature. C'est ce qu'avait fait cet artiste. Il avait fait sa petite statue, la Vierge. Puis après, il l'a réalisée, grandeur naturelle. Mais il y avait d'abord la petite statue, la petite maquette, si vous voulez. On voit très bien ça. Et ceci pour mieux comprendre le côté impératif de l'idéa. On le réalise d'abord, un peu en miniature, pour mieux voir, pour mieux, on dit, visualiser, réaliser d'une façon plus simple. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir cette coopération. Et dans tout travail, il y a cela. Le travail humain implique la coopération de l'idée, de la matière et de l'instrument. Les trois. Et plus ceci est en harmonie profonde, plus l'unité de l'œuvre sera forte. Quelquefois, la coopération est très mauvaise. À ce moment-là, c'est plus une coopération, c'est une domination. Et donc, vous n'êtes plus assez docile à l'égard de la matière. La matière ne vous enseigne plus. Alors que si on est un véritable artiste qui travaille, la matière vous enseigne. Et vous travaillez en coopération foncière avec la matière. Vous, chez le menuisier, ça se voit tout de suite. Mais vous voyez ça très fort chez le sculpteur. On ne doit pas tailler le granit n'importe comment. On le taille en le caressant. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Exactement comme pour un cheval. Monter dessus en le caressant. Parce qu'il faut coopérer. Dès qu'il faut coopérer, vous voyez, il y a toujours le fortitaire et le suavitaire. On dit ça de la sagesse de Dieu. Le fortitaire, il faut deviner. Si je ne domine pas la matière, elle me conduira n'importe comment. Mais il faut la dominer en la caressant. Il faut la dominer dans le bon sens. Celui qui ne sait pas découvrir le bon sens de la matière sera toujours en lutte. Et donc l'œuvre n'aura pas d'unité. Ça se connaît. Alors pour l'animal, c'est très net. L'équitation, ça se connaît, ça. C'est très vrai pour la danse. Et c'est vrai même pour une matière inerte. Et ça qui est terrible dans le travail de l'entreprise par série, c'est qu'il n'y a plus cette symbiose entre celui qui travaille et la matière. Il n'y a plus cette véritable harmonie entre le travailleur et la matière. Ça s'impose de l'extérieur. Surtout avec des matières artificielles. On les coule. On voit très bien les matières artificielles. Ça se coule. Ça n'a plus du tout la même valeur. Tout à fait différent. Parce que la lutte entre l'artiste, le travailleur, l'homme travailleur et la matière, ça se marque. Et ça donne à l'œuvre une qualité tout à fait particulière. Mais ça, c'est très curieux, mais ça, c'est très important. Parce que ça rentre dans cette coopération. Vous voyez, ce que je vous disais ce matin, quand on exploite, exploiter, c'est oublier cette harmonie. On fait tout avec n'importe tout, n'importe quoi. Ça, c'est exploité. Mais c'est très difficile de voir à quel moment la coopération n'est plus la coopération et que c'est l'exploitation. Très difficile. Je crois que c'est une question d'expérience. Jusqu'où peut-on tendre l'arc avant qu'il saute? Jusqu'où peut-on coopérer en dominant, et que ce ne soit pas l'exploitation. Quand c'est exploité, les dents des petits-fils en sont agacées. C'est juste l'inverse d'un patrimoine. Parce qu'il y a la violence. Il y a une violence trop grande. On domine. Quand on coopère, on ne domine pas. C'est une œuvre commune. Donc, voyez bien le nœud du travail au point de vue philosophique. C'est l'homme avec son idéa. C'est le choix de la matière et le choix de l'outil. Ceci dans un travail, dans une coopération, dans une harmonie qui est plus ou moins forte, plus ou moins grande. Et dans cette harmonie et ce travail, il y aura toujours un élément de violence et un élément de caresse, un élément de douceur où on essaie de caresser le marbre. Vous trouvez ça dans le champ, c'est la même chose. Il y a tout le temps ces éléments et ce travail. Parler ce matin de l'outil, je ne reviens pas dessus. Et vous comprenez que l'harmonie qui existe entre l'homme travaillant et l'outil peut avoir une très très grande variété jusqu'au moment où l'outil s'impose. Et alors, à ce moment-là, il n'est plus un outil. Il devient une cause exemplaire, un modèle. Il n'est plus un outil. Il est outil tant que la détermination vient du projet et d'idéa. Et au moment où l'outil s'impose comme déterminant votre travail et déterminant l'œuvre, ce n'est plus un outil. C'est pour ça que je dis situation limite. Et vous êtes devant quelque chose de nouveau. C'est l'homme qui est au service de l'outil. Très très curieux cela dans l'industrie. Vous inventez un modèle où ça a coûté très cher. Vous avez investi énormément. On investit énormément en vue de faire que la production va pouvoir se répéter avec une quantité énorme. Comme ça, vous aurez le profit et au bout d'un certain temps, tout ce qu'on aura mis comme prix pour réaliser le modèle, l'outil, sera complètement dépassé. Et à partir de là, on aura le profit. Mais vous voyez bien que ce travail qui se fait alors relativement à l'outil perd sa valeur humaine. C'est la série. Ce n'est plus l'idéa. Et puis c'est absolument déterminé. C'est le côté série. Tous vont en série aujourd'hui. Quand vous avez un travail artisanal tout à fait pur, chaque œuvre est unique. Quand vous avez un outil qui est moule, cause exemplaire, pour avoir la série, plus aucune œuvre qui est unique. Oui, c'est vraiment l'outil qui, dans sa spécialisation toujours plus grande, va s'imposer et fait que l'homme est relatif à l'outil. Il n'a plus d'idée, il n'y a n'y a plus qu'exécution. Et la matière elle-même est relative à l'outil. Et les voies sont absolument déterminées. Vous ne pouvez plus les modifier. Donc le très très gros problème de l'outil, ça je crois que... Donc l'idéa, la matière, l'outil, l'œuvre. L'œuvre artistique. L'œuvre artistique, c'est ce qui n'est pas donné directement par la nature. L'œuvre artistique, c'est la coopération de la nature, de la matière, avec l'homme. C'est ça une œuvre artistique. Nietzsche dit cette chose très forte. Quand je suis en face d'une œuvre artistique, cette œuvre crie l'homme. Quand je suis en face de la nature, la grandeur de la montagne, l'océan, le désert, cette réalité crie Dieu. C'est Nietzsche qui dit ça. Je trouve ça très beau. Dante dit que toute œuvre artistique est petite fille de Dieu. C'est la même idée, et en même temps, c'est tout à fait différent. Pour Dante, l'œuvre artistique parle encore de Dieu, petite fille de Dieu, grâce à la main du Père. Pour Nietzsche, il y a une espèce de dialectique, d'opposition dialectique entre l'œuvre de la nature et l'œuvre artistique. L'œuvre artistique proclame la grandeur de l'homme. C'est vrai. La tour Eiffel proclame la grandeur de l'homme. Surtout quand on voit la date. Si on ne voit pas la date, on dit « Oh, on a dépassé ça. » Oui, oui, mais attention, voyez bien à quelle date. Toute œuvre artistique proclame la grandeur de l'homme. Tandis que la nature proclame la grandeur du Créateur, de Dieu. Alors, c'est intéressant de voir que l'œuvre de la nature, ce concours de la matière, de la nature réelle, et de l'artiste aboutit à des œuvres très différentes. Et je crois qu'on doit classer ces œuvres à trois niveaux. Vous avez l'œuvre qui est un outil. On a commencé par faire des outils. Le silex taillé. Un silex bien taillé, très bien taillé, c'est beau. J'en avais rencontré un dans le désert de Juda, un très beau silex, bien taillé. Je l'ai présenté à un archéologue, j'ai dit, est-ce que c'est vraiment une œuvre d'art ou c'est naturel? Vous savez, dans Valérie, M. Test, qui se trouve auprès de la mer, qui regarde certains objets. Est-ce que c'est l'eau qui les a ravinés comme ça? Ou est-ce que c'est une œuvre est-ce que c'est naturellement comme ça? Il y a des œuvres de la nature qui sont extraordinairement dentelées. De très beaux coquillages. Ouh là 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 là. Très bien fait. Dieu avait le temps. Parce qu'il avait l'éternité pour lui. Vous avez des œuvres de nature qui sont dures. L'homme a commencé par faire des outils. La roue, la brouette, le levier, Quand on fait des outils, c'est pour un nouveau travail. Le travail humain est fait pour l'alimentation. Second genre de travail, d'œuvre, l'alimentation. Je fais des pâtes. Alimentation. Je fais le pain. Je fais du jambon. Et le point de vue artistique est développé très différemment selon le lait pasteurisé et selon, au contraire, la confiture. La confiture est une œuvre d'art. Toi, c'est sûr. On s'en aperçoit en temps de guerre. C'est une œuvre d'art. Le lait pasteurisé, c'est encore une œuvre d'art. La défense contre ce qui pourrait abîmer. Alors, c'est très très différent. C'est tout à fait autre chose. Mais c'est encore une œuvre d'art. Puis troisièmement, vous pouvez faire une œuvre qui soit pour qu'on la regarde, l'œuvre proprement artistique. Vous avez donc trois niveaux, hein. Ça qui est intéressant. Trois niveaux, étant donné, trois niveaux de l'œuvre d'art, étant donné que toute œuvre d'art, et pour l'homme. Elle vient de l'homme et elle est pour l'homme. Étant donné que l'homme...
Philosophie de l'activité artistique. Par le père Marie-Dominique Philippe, le 24 décembre 1993, 9e conférence.
On est du 24. On la commence par un travail intellectuel, on la terminera dans la contemplation de Noël. Alors je vois tout de suite avec vous ces quelques questions. Oui, mais ça... Pouvez-vous nous parler du problème du chômage qui touche le monde du travail en France, pas qu'en France, dans le monde entier. La crise est dans le monde entier. Ça, c'est la première fois. Le monde est uni économiquement pour le bon et le mauvais. C'est très curieux, hein. L'œcuménisme se fait d'abord du côté économique. Alors, on ne sait pas ce que ça représente au point de vue des sagesses de Dieu. Je voudrais bien, moi, de temps en temps, pouvoir regarder qu'est-ce que ça représente par rapport à la sagesse de Dieu. Mais c'est un fait. Et le symbolisme de la tour de Babel. C'est très impressionnant, le symbolisme de la tour de Babel, parce que c'est le dernier chapitre 11, hein, de la Genèse. Après, c'est l'histoire. Les 11 premiers chapitres de la Genèse ont un caractère métaphysique, méta-historique. Donc, métaphysique, d'une certaine manière. C'est comme une maquette. Dieu qui nous livre la maquette du gouvernement du monde. Alors, c'est à la fois avant, puis après. Parce que c'est quand même très impressionnant, tu vois, la grande montée vers le mystère de l'Annonciation, à Noël, et de Noël à la vie publique du Christ, cette grande vie cachée, comme Dieu ponctue différemment de nous, hein. 30 ans de vie cachée et 3 ans de vie apostolique, hein. Ça en dit quelque chose, ça. Et quand on a 5 ans de vie cachée pour les études, on trouve que c'est déjà bien suffisant. Et on a 30 ans ou 40 ans de vie apostolique. C'est pas le rythme du Saint-Esprit, ça. Curieux, c'est curieux. Il faut, je crois, les journées de Noël, comme les journées d'Annonciation, comme la croix, il doit y avoir un regard très, très de sagesse divine sur le monde entier. Alors, que représente le chômage dans la vision de Dieu? C'est l'homme qui crée le chômage, c'est pas Dieu. C'est l'homme qui, dans son manque de sagesse, faut le dire, crée le chômage. Parce qu'il voit que le rapport immédiat, que l'efficacité immédiate, oubliant le véritable équilibre de l'homme de la sagesse. Au point de départ, le travail, c'est quand même pour nourrir sa petite maison. C'est une des choses qui m'impressionne beaucoup. Quand vous regardez dans la philosophie grecque, l'économie est liée à la maison. Elle est liée au foyer. Alors, progressivement, l'économie est devenue internationale. De la maison, en passant par l'État, et puis internationale. Et elle est devenue internationale à cause des idéologies. L'idéologie capitaliste, l'idéologie marxiste. Toutes les deux sont internationales. Toutes les deux, non seulement ruinent la famille, mais ruinent l'État. On est devant ça, quoi. Il faut regarder les choses en face. Que représente aujourd'hui la politique d'un État? Mais rien du tout, au point de vue humain. On cherche plus tout le bonheur des hommes, quoi. Il n'y a plus de politique. Il n'y a plus de conscience politique. On est à un rythme économique et c'est ça qui fait le point de vue humain. Alors, au point de vue philosophique, c'est peu de choses. Hein. Il faut regarder les choses puisque le philosophe regarde l'homme. Ce qui l'intéresse, c'est l'homme. Et c'est le bonheur de l'homme. Alors, on se soucie très peu du bonheur de l'homme. Regardez dans les programmes politiques où se trouve le bonheur de l'homme. Encore un tout petit peu la famille, parce que ça fait bien. Ça fait traditionnel, la famille. Mais le reste, bonheur d'individu. Alors on est en face de ça. Et je crois que c'est le mythe de la tour de Babel. C'est très très mystérieux le mythe de la tour de Babel. Et c'est très fort. Parce que si vous regardez bien le texte, vous voyez que Dieu est obligé de regarder de l'extérieur ce qui se passe. Il ne voit plus de l'intérieur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? La seule chose que Dieu regarde de l'extérieur, c'est le péché. Quand j'agis bien, Dieu voit de l'intérieur. Et Dieu voit avant moi. Parce qu'il voit le ciel, lui. Il voit la béatitude. Alors, tout ce qui est bon en moi, Dieu le prévoit. Et on le dit bien, il le prévoit. Tandis que le péché, Dieu ne le prévoit pas. Vous voyez dans quel sens je veux le dire? C'est l'homme qui le fait. C'est l'homme qui est cause propre du péché. Et la tour de Babel, c'est l'homme. Ça, c'est très impressionnant. Et c'est, après la tour de Babel, Abraham. Alors on a l'impression que la tour de Babel montre que l'homme, après la nouvelle alliance faite avec Noé, qui est préfigurative du mystère du Christ, l'arche de Noé, c'est l'Église, avec des petites colombes et des corbeaux. Les corbeaux, ils quittent l'arche. Il y a beaucoup de corbeaux. La colombe, elle revient. On voit voit bien que l'arche que Noé préfigure le Christ. L'ivresse de Noé. L'ivresse du Christ à la croix. Et ceux qui regardent la nudité du Christ à la croix. Et qui la méprisent. Et c'est vrai. Le grand prêtre a méprisé le Christ crucifié. Et c'est bien vérité, toi qui te voulais roi. L'ivresse de Noé. C'est très beau ce passage, hein. Les fils bénis et les fils maudits, rejetés. Et la croix qui est sagesse, et qui est sagesse pour le monde entier, il est de côté. Et la sagesse des hommes, c'est la sagesse de l'efficacité. C'est ça la tour de Babel. Ça m'avait impressionné, moi, première fois que je vais être en Amérique, au Canada, à Montréal, en l'an 50. Et j'avais fait le tour avec un Dominicain de la ville de Montréal. Alors il me disait tout le temps, celui-là il vaut tant. Première fois que j'entendais le langage comme ça. Au bout d'un certain temps j'ai compris. Oui, la valeur au plan économique. Et ça c'est la tour de Babel. L'efficacité. Et c'est la tour de Babel qui termine, hein. Alors, on est tant dans la tour de Babel. Ça, c'est absolument juste, on est dedans. Et on sent très bien que le mystère de la croix. Alors, le chômage, j'allais dire, c'est la punition immanente d'un monde qui veut se construire par lui-même au niveau économique. Et qui devient une économie internationale. Mondial qui veut se diriger par elle-même dans un doux équilibre de rivalité perpétuelle et de haine. C'est comme ça que ça marche. Et on veut être le premier de ce monde économique, de ce monde de l'efficacité. Et c'est ça qui est la lumière des hommes. C'est-à-dire les ténèbres qui envahissent tout. Je crois que le jour de Noël, on doit voir ça avec beaucoup de netteté. Pour moi, il y a deux Noëls, vous voyez. Il y a le Noël merveilleux de Saint-Luc. Hein. Alors, c'est la petite crèche. Et puis, il y a le Noël de l'Apocalypse. Et le Noël de l'Apocalypse, c'est quoi? C'est la femme qui enfante. Et c'est le dragon qui est là. Évidemment, difficile de faire une crèche comme ça. C'est comme ça que je ferai la crèche, moi. Je ferai d'un côté la crèche de Saint-Luc et de l'autre côté la crèche de l'Apocalypse. Parce qu'elle est tout le temps présente. Et la crèche de l'Apocalypse, c'est le dragon. Un dragon énorme et un tout petit enfant. Et la Vierge qui ne tremble pas devant le dragon et qui tremble devant l'ange. L'annonciation. Elle s'enfuit au désert. Il est toujours au désert, Marie. C'est le désert de Dieu. Il faut voir ça comme ça, hein. Parce que la tour de Babel montre bien ce que devient Noël, ce que les hommes ont fait de Noël. Et le chômage est là pour rappeler aux hommes, tu vois, tu n'es pas capable de nourrir l'humanité. C'est évident que l'humanité a grandi, a grandi, a grandi. Et l'homme a voulu équilibrer le monde par l'économie. En tenant absolument plus compte du bonheur de l'homme. Vous voyez ? Alors ça fait comprendre la praxis de Marx. Il veut donner le bonheur par la praxis. Résultat, la faillite. On veut donner le bonheur par les capitalistes aussi. On va voir le Brésil, mais par le capital. Parce que vous avez de sécurité, vous avez un capital. Des dividendes, bien placés. Le grand-père a bien gagné sa vie. Alors les petits-fils, les dents des petits-fils n'en sont pas agacées. Ils reçoivent les dividendes. Sécurité. Il faut regarder ça. C'est un fait. Il faut pas tout casser. Ça servira à rien. Mais beaucoup frappé quand le père Leuve, qui était quand même quelqu'un qui s'était engagé à Marseille d'une façon très étonnante, qui était un moine ouvrier, et qui n'avait pas la même mentalité. C'était un moine ouvrier. Et quand le père Leuve est revenu du Brésil, tous les petits copains du père Leuve attendaient que le père Leuve dise oui, faut la révolution, faut tout briser. Le père Leuve était à Fribourg à ce moment-là, avec l'école de la foi. Le père Leuve a simplement dit, je n'oserai absolument pas faire la révolution. Ce serait pire. C'est terrible. On est devant de terribles injustices que l'homme a créées. C'est l'homme qui a fait ça. Avec l'appât immédiat. Qu'est-ce qu'on peut faire? Un prêtre de la mission de Paris. Il y en a deux que je connais qui sont à Saint-Salvador. Ils ont quitté la mission de Paris pour aller au Brésil en disant là on sera devant des vrais pauvres. Ils sont là-bas depuis 10 ans. J'ai rencontré providentiellement les deux là-bas. Et alors, devant les pères de Saint-Jean, ils ont dit vous avez raison, vous avez raison. Aujourd'hui, dans l'état dans lequel on est, il n'y a plus que la prière. On ne peut plus rien. On est engagé d'une façon telle qu'il n'y a plus que la prière. Et c'est pour ça que j'allais dire, leur vision est toute différente. La mission de Paris, la mission de France, je veux dire, avait quand même une sorte d'engagement d'un certain messianisme temporel, vous voyez. J'avais été donner des cours de philosophie à Pontigny. Ça m'avait beaucoup intéressé, du reste. Parce qu'il faut tâter le pouls quand on y va comme ça. Au moment où ça montait, hein, à Pontigny, c'était un peu la gloire. Et ça m'avait frappé. Combien c'est difficile, hein, de vivre de la sagesse de la croix, tout en faisant tout ce qu'on peut pour maintenir une justice humaine. Et dans la miséricorde, et dans la lumière de la miséricorde. À Pontigny, il y avait cela. Quand on retrouve ces prêtres là-bas, et d'excellents prêtres, tous les deux français, qui disent faites bien de venir ici, et vous des jeunes moines. C'est la prière. Et j'avais dit, parce que allant 4 jours là-bas, 2 frères m'avaient invité le samedi à venir avec eux. Pendant tout le mois d'octobre, ils avaient récité le rosaire dans les coins les plus pauvres. Allant de maison en maison, changeant comme ça toutes les semaines. était très heureux. On était donc 6. On a débarqué dans ces maisons. Des taudis. Hein. Je ne peux pas vous imaginer ce que c'est. Et alors, tout d'un coup, il y a eu un éclat. Ah. Qui reste dans mon cœur. D'une jeune femme convertie par ce prêtre de la mission de France. Et toute donnée maintenant au Seigneur. Qui tout d'un coup s'est mis à chanter un chant à la Vierge Marie en portugais. Elle exultait de joie. Et alors elle a dit après, six moines dans cette petite maison, c'est bien Bethléem. C'était touchant. Pour elle, elle a dit, tout ce que j'ai souffert dans ma vie, tout ce que j'ai lutté, six moines dans cette petite maison, c'est merveilleux, c'est le ciel. Elle savait très bien qu'il manquerait de pain le lendemain, mais il y avait dans son cœur une flamme d'amour qui montait. Alors voyez, le chômage, la seule solution du chômage, c'est la conversion des cœurs. Il ne manque pas de nourriture dans le monde. Absolument pas. C'est faux de dire qu'il manque de la nourriture dans le monde. Et qu'il y a trop d'habitants. Mais c'est parce qu'il y a un égoïsme terrible. Ceux qui possèdent veulent posséder plus. Et ils ne voient pas que ceux qui meurent à côté n'ont rien. Alors il faut une conversion, mais très radicale, comme si on était tout proche du retour du Christ. C'est cette conversion radicale qu'il faut. De comprendre que on doit aimer Jésus et le suivre jusqu'au bout. Et c'est ça qui est beau dans ces pays-là, c'est qu'on est en face du Christ, vraiment en face du christianisme dans toute sa pureté, comme un christianisme primitif. On est obligé de se convertir. Il n'y a pas moyen autrement. Je suis un petit bonhomme, un petit garçon de 16 ans. Et vous savez bien que c'est très difficile pour ceux qui sont vraiment dans la pauvreté. Alors ils sont dans les rues. C'est pour ça que Point Cœur a un bel impact là-bas. Parce qu'il faut ramasser ses gosses. Ah, vous voyez ce petit, il m'attendait. Parce que le père avait dit, on ne peut pas prendre de décision avant que le père Philippe passe. Il m'attendait. Alors je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il a dit, j'ai jamais connu mes parents. Ils m'ont jamais accepté. Alors, c'est une tante qui m'a pris. Je suis chez elle, mais maintenant je grandis. Elle travaille. Et moi, je suis toute la journée seul. Et j'aime Jésus, est-ce que je pourrais pas entrer tout de suite dans la communauté Saint-Jean à 15 ans? Parce que j'ai peur. Passant toute ma journée dans les rues, j'ai peur. J'ai peur de me laisser contaminer. Est-ce que je peux pas entrer tout de suite? Il paraît que ça dépend de vous. Alors, disons, ça dépend pas entièrement de moi, mais... J'ai dit ça à l'évêque, au cardinal, qui est dominicain, Laurent. On est frères, depuis longtemps. J'ai dit, est-ce que vous acceptez qu'on le prenne? Le cardinal a dit, voyez, ça pose des tas de problèmes, il faut faire attention au point de vue du travail. Il y a 15 ans, il est orphelin, il n'a personne. Et sa tante est d'accord. Elle serait très heureuse. Elle dit, est-ce qu'on pourrait pas inventer quelque chose comme au Moyen-Âge pour tous ces pauvres? Et faire une petite école à l'intérieur du couvent pour ces pauvres qui désirent, qui aiment Dieu à 15 ans, ils ont un cœur encore généreux, désireux de se donner au Seigneur. Alors, regardez.
évidence. Je ne lui demandais pas d'avoir l'initiative d'avoir une école cardinaliste, de promettre à ces jeunes d'être cardinal au bout du rouleau. Mais c'est ça qui frappe, c'est qu'on est aujourd'hui constamment avec ce déséquilibre complet au point de vue économique, mais un déséquilibre fou de richesse, c'est ça qui est frappant au Brésil, de richesse folle, et puis de pauvreté radicale, et on laisse alors, vous voyez l'évangile, hein, Lazare, et la pauvreté du pauvre qui prend les miettes, et qui accepterait de prendre uniquement les miettes pour vivre. On vit ça. Nous, on le vit ici d'une façon très différente, mais c'est le même problème. Mais ici, ça ne nous touche pas directement notre cœur et nous continuons une petite vie. Sans une certaine sécurité, ça va. On a vu votre pauvreté, mais il y a une sécurité. C'est vrai, on ne pense pas beaucoup qu'on a vu votre pauvreté. On a l'assistance des bons chrétiens. Ça peut craquer d'un jour à l'autre et être en face de cette pauvreté évangélique qui est absolument nécessaire. C'est la pauvreté évangélique qu'il faut donner à ces jeunes. Mais c'est ça qui convertit notre cœur. Si on n'est pas capable de se jeter dans dans ce contexte, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça prouve qu'on n'a pas encore compris qu'on vit quelque chose de très radical. Et le chômage, pour nous, doit être un rappel de ce déséquilibre qu'on ne peut pas accepter. On ne peut pas l'accepter. Alors, il s'agit de continuer de vivre, il s'agit de continuer de prier, c'est bien évident, et faire ce que le Seigneur réclame de nous. Mais chômage, pour moi, c'est ça. Chômage, sida. Hein. L'Égypte, Sodome. Hein. C'est les symbolismes de l'Apocalypse, de la fin. Sodome et Gomorre, on sait ce que c'est. Relisez de temps en temps, hein, dans la Genèse, Sodome et Gomorre. Hein. Il faut le relire. C'est une clarté étonnante de ce qui se passe maintenant. C'est étonnant. Et l'Égypte, l'économie, le pharaon, le primat d'économie, les pyramides, et le peuple de Dieu réduit à l'esclavage. Peuple de Dieu réduit à l'esclavage. L'Église réduit à l'esclavage. Ah, faut voir ça. On veut que l'Église ne soit plus rien du tout, du tout, du tout. C'est une idée, celle du démon. C'est un grand artiste, le démon. Les autres. Lui ne se mouille pas les mains. Il est trop distingué. C'est un pur esprit. On ne peut pas l'oublier que le démon, c'est un pur esprit. Malin. Un super malin. Et il fait marcher les gens. Et il veut, parce que tout ce qui se passe dans l'Ancien Testament est préfiguratif du Nouveau. Dans l'ordre inverse. Hein. Et on voit très bien. Le peuple d'Israël réduit à la servitude sous le point de vue du potentat, du pharaon. Ah oui, l'art peut-il ne pas exprimer le beau. Ainsi l'art moderne, qui n'est pas toujours beau, peut-il être considéré comme de l'art, dès lors qu'il relève d'une inspiration. Là, il faut voir si c'est encore une inspiration. Parce que ça, c'est très bien, il faut revenir là-dessus. Ne confondons pas inspiration et instinct. Parce que dans l'art moderne, il y a cette tentation. C'est la tentation moderne, ça. C'est la confusion. ça qu'on fait un art instinctif. Et on confond l'inspiration et le point de vue de l'instinct. Je voulais le dire hier et puis... Je ne l'ai pas dit, je voulais le redire ce matin pour que... Parce que quelqu'un m'avait posé la question. Il dit, mais oui, mais fais attention. Fais grande attention. L'inspiration n'est pas l'instinct. L'inspiration est spirituelle. C'est pour ça que je dis, le démon est un artiste. Et le démon veut corrompre l'art. Parce que ça, c'est son domaine. Il y a l'art chrétien et l'art démoniaque. Et je crois dans la lutte jusqu'au bout, Gog et Magog, on arrivera à voir ce point de vue-là. Le seul art qui restera sera un art chrétien. Et autrement, un art démoniaque. Et de plus en plus, on est devant un art démoniaque. Quand vous lisez du Baudelaire, il faut être bien assis et se dire, est-ce que je suis en face de l'art démoniaque ou est-ce que je suis en face d'un art encore ? Il faut un équilibre dans le monde pour que l'art puisse exister comme art. Et quand on est en face d'une lutte aussi forte que celle qu'on a actuellement, je crois que l'art est où rattaché au point de vue chrétien. Je voulais en parler de l'art chrétien, parce que vous terminez par là. Le travail, je vous ai dit, le travail au sens strict n'est pas chrétien. C'est l'homme qui est chrétien et qui travaille. Il n'y a pas un travail chrétien. Vous n'avez pas un outil chrétien. Les outils chrétiens, c'est les sacrements. C'est les seuls outils chrétiens. Ah, c'est les sacrements. Les sacrements sont des outils du Saint-Esprit. Hein. Parce que l'Esprit Saint, c'est l'artiste de la beauté et de l'amour. Et le démon est en rage contre cet artiste divin. Et il y a un art démoniaque. Alors ça, oui, il y a un art démoniaque. Qui, petit à petit, n'est plus un art. Alors là, ce serait très intéressant de voir la dégradation de l'art pour arriver à l'art démoniaque. Donc, vous voyez, je crois que tout art, il y a un appel vers le beau. Et la beauté et le rayonnement de l'amour, de la vérité. Splendor veritatis. Splendor, c'est la beauté. Beauté de la vérité. Vous savez, il faut une force étonnante pour que dans le monde aujourd'hui, faire une encyclique Splendor veritatis splendor. Mais pour moi, c'est un signe d'alarme. Il ne faut pas l'oublier. C'est dans la dernière semaine, selon l'évangile de Jean, que Jésus dit « Je suis témoin de la vérité ». Et nous vivons peut-être la dernière semaine de l'Église. Ça ne m'étonnerait pas. Il y a des signes quand même suffisamment nets. Et pour que le pape donne une encyclique comme celle-là, Veritatis Splendor, la splendeur de la vérité. Ouais, regardez la splendeur de la vérité aujourd'hui, hein. Où est-ce qu'elle est? Moi, je ne vois pas la splendeur de la vérité. Je sais que c'est le Christ. Mais on l'a bien occulté. Et on l'occulte, et on l'occulte, et on l'occulte. De plus en plus, la tour de Babel occulte complètement l'Église. On n'a pas le temps, mais je me souviens, c'est cette chose qui m'a beaucoup frappé. C'était la réunion de 15 grands savants de l'Institut de la vie, allant à Rome. Et celui qui est le secrétaire, celui qui a lancé l'Institut de la vie, est un bon catholique. humblement. Il avait dit, c'était du temps de Paul VI. Il avait dit, on est à Rome, il faut quand même demander une audience au pape. Comme je le connais bien, il m'avait dit, vous ne pouvez pas me donner la clé de l'escalier secret du Vatican pour que je puisse sonner directement sans passer par tous les intermédiaires. On avait fait tout ce qu'on avait pu, on avait pu obtenir une audience. De Paul VI à la fin de sa vie. Alors tu dis, il était trop malin, trop fatigué, il ne veut pas. Non, hein. Alors quand le secrétaire de cet institut, le fondateur de cet institut, a annoncé à ses 15 grands savants, ils ne savaient absolument pas ce qu'ils étaient au point du religieux, qu'il y aurait une audience avec le pape, puisqu'on était à Rome. Il dit, c'est ça, après un panégyrique du président de l'Académie des sciences italiennes, sous le haut patronage de Galilée. Et celui-là avait dit, la science progresse, et actuellement, elle est en plein honneur. L'Église diminue. Après ce discours, je ne savais pas comment j'allais annoncer l'audience au pape. Quand j'ai annoncé ça, j'ai vu la figure de tous ces savants s'allonger. Et le plus téméraire parmi tout cela, qui était un Européen, je crois suédois, veux-tu, mon cher ami, l'Église, c'est un musée. C'est un musée. Elle garde des choses belles. Mais c'est pas la vie. La vie n'est pas là. Et tous ces 15 savants, aucun n'avait la foi. Ça l'a impressionné, du reste, beaucoup, lui. Parce qu'il a interrogé chacun. Alors tous unanimement ont dit, on vous aime beaucoup. Parce qu'on vous aime, on sera là pour l'audience. Voyez l'amitié. Il y a ce lien d'amitié. Alors il y a eu ce petit épisode, celui qui est toujours la Providence, mais des petits épisodes comme ça, qui font qu'on peut voir le baromètre de la situation. Alors, les épouses de tous ces grands savants étaient invitées. Elle s'était mise forcément l'audience avec le pape, donc la toilette de gala. Alors, il en voit une particulièrement bien vêtue. Alors, il dit, madame, écoutez, vous avez l'audience avec le pape quand même. Il y a des mœurs au Vatican. Vous aviez une robe tellement bien quand vous êtes arrivé ici. Vous ne pourriez pas la remettre. C'est comme ça, c'est un peu gênant. Puis alors il insiste. Elle dit, oh, c'est pour faire plaisir, je vais la mettre. Alors elle va vite la mettre. Alors son mari, pendant ce temps-là, s'approche de lui. Il dit, oh, je commence à croire qu'il y a quelque chose ici qui se passe. La première fois dans sa vie qu'elle obéit. Vous voyez, l'intervention de l'éthique au milieu de l'art, au milieu de la science. C'est délicieux. Ça, c'est lui qui m'a raconté ça directement. Parce que ça avait changé l'atmosphère. Vous voyez, je ne dis rien du tout. Et ce qui a changé l'atmosphère, c'est quand ils ont vu Paul VI arriver. Il y avait au milieu d'eux un épileptique qui il avait de la peine à se lever. Parce que Paul VI a mis sa main sur son épaule. Mon cher ami, restez assis. Alors, ils ont vu que la momie était vivante. Et qu'elle était miséricordieuse, et qu'elle était bonne. Et Paul VI avait un petit discours à la manière de Paul VI. Je l'ai lu. Et j'ai retenu par cœur, parce que ça, c'est extraordinaire. Paul VI a dit, la religion chrétienne, le christianisme, aime la science. Nous aimons. sont les savants qui consacrent leur vie à la recherche de la vérité. Mais nous rappelons aux savants que la science est au service de l'homme et non pas l'homme au service de la science. L'homme est plus que la science. Et nous rappelons aux savants que la vie vient de Dieu et qu'on n'a pas le droit de la manipuler. La vie humaine vient de Dieu et qu'on n'a pas le droit de la manipuler comme on veut. Ces trois points, je trouve ça très beau, de Paul VI à ces 15 grands savants. Et alors après l'audience, le pape les a vus chacun en particulier et les a interrogés. Et tous sont venus dire: c'est merveilleux le pape, s'il n'existait pas, il faudrait l'inventer. Parce que c'est le seul homme qui ose nous dire que la science est au service, que la science est au service de l'homme. Nous, nous vivons dans un climat où on ne cesse d'exalter la science. En disant la science, il n'y a rien au-dessus. Eh bien là, on voit qu'il y a quelque chose au-dessus. Il y a le pape. Alors, ce cher professeur qui avait fait ça m'a dit: l'Institut de la vie n'aurait servi qu'à cela. Je crois que c'est ça le but. Montrer que la vie vient de Dieu, que la science est au service de l'homme, et que la science a sa noblesse. Existe-t-il un beau objectif? Bien, le beau est-il toujours subjectif? Alors là, il existe un beau objectif. Oui. Ça, c'est un très très gros problème. Hein. Un problème très intéressant. Il existe un beau objectif, c'est-à-dire qu'il y a des limites. Et le beau objectif dépend de l'homme. Dépend de l'homme, voyez ce que je veux dire, est relatif à la nature humaine.
Domine surtout sur le psychisme.
modifier votre psychisme très facilement. C'est pour ça qu'on a très peur d'être dans les mains de certains, parce qu'ils vont modifier votre psychisme. Ils vous donnent des petites pilules. Et votre psychisme est modifié. Je te mets là-dessus. Vous savez, on est dans un air, le Saint-Père du reste l'a dit, on est dans un air apocalyptique. Donc ça veut dire extrême, ultime. Tout est poussé à l'extrême. La science, le travail, tout, l'art. Alors on est toujours sur la frontière. La frontière du bien et du mal. Le Saint-Père, dans son encyclique, je dis, c'est signal d'alarme. Si vous continuez comme ça, vous prétendrez du jour au lendemain que c'est vous qui faites le bien ou le mal. Et chacun fait le bien et le mal. Ce petit épisode, je vous raconte parce que pour moi c'est un petit épisode extrêmement significatif. Dans le métro à 11h du soir. Dans le métro, parce qu'à 11h du soir, on touche, on tâte de Paris. Hein. Ne le prenez pas, hein. Mais moi je le prends de temps en temps. Bon, plus à minuit, le dernier métro. C'est vraiment juste un spectacle. Pas très drôle, mais c'est un spectacle. Alors il est arrivé ça, je l'ai pas vu, mais on m'a certifié que ça s'est passé comme ça. Une brave femme entre avec son enfant de 5 ans dans les bras qui dort à minuit, ce gosse il dort. Et elle le prend sur ses bras et avec ses petites pattes, il donne des coups de pied. Il y avait une personne juste en face parce qu'elle ne pouvait pas se mettre en bas, elle reçoit ses coups de pied. Elle dit, madame, écoutez, vous ne pouvez pas arrêter votre enfant, vous voyez, hein. Il faut aucune intention, hein. Puis il y avait des pieds sales en plus de ça. Non, on voit des coups de pied. Oh non. Moi, je laisse faire ce qu'il veut. Avec bonne méthode d'éducation. Je laisse faire ce qu'il veut. Je vais faire tout à fait le fait. Alors, il y avait à côté un garçon de 23 ans, 24 ans, qui écoutait. On a l'arrêt suivant. Le garçon se lève, descend, et puis crache sur le visage de cette femme qui portait son enfant. Alors là, Didier, madame, c'est mon habitude de dire au revoir.